Alors, comme à tous les mardis à cette heure-ci, on va recevoir Maître Jean-François Gay. Non seulement il est avocat, mais son dada, lui, c'est la voiture. Alors, c'est un expert, bien sûr, collabore au guide de l'auto, bon an, mal an, depuis déjà 1932. Alors, on va retrouver tout de suite Maître Jean-François Gay. Salut, Jean-François.
Attends un petit peu, là, tu m'entends-tu bien, oui?
J'ai-tu bien compris? J'ai-tu bien dit 1932?
Ah, ça...
J'exagère un peu, hein?
T'exagères un petit peu, mais...
Ah, tu me connais, j'aime ça.
Mais j'ai pas ma canne encore, donc...
Tu vieillis très, très bien, quand même. Alors, t'as passé une partie de la fin de semaine au salon de l'auto qui se terminait, quoi, hier? Ben, pas hier, mais avant-hier, dimanche.
Exactement, Jacques. Puis j'ai rencontré notre ami Denis. Tu sais, l'auditeur de la semaine dernière qui avait une Corvette 68.
Oui, ben je pense qu'il nous l'avait dit, qu'il irait au salon.
Finalement, il est venu me voir au kiosque avec un bel album de photos de sa Corvette 68.
Oui.
Donc, tu sais que très sympathique plutôt. Puis il est supposé nous donner un coup de fil ce soir. Donc, hâte d'entendre ses commentaires concernant la nouvelle Corvette 2020, là, la 8e génération qui a été dévoilée. En première canadienne au Salon de l'Auto de Montréal.
Alors, on sait que Denis est très volubile.
Ah, très volubile.
T'as dû garder une demi-heure, trois quarts d'heure, certain.
Ben, il voulait jaser. Par contre, il y avait du monde aussi en ligne hein, qui voulait nous causer, donc un brin de jasette.
Mais là, tu dis du monde en ligne, en avais-tu tant que ça? Parce que j'ai l'impression que le Salon de l'Auto, est-ce que je me trompe, mais il semble y avoir un petit peu moins d'achalandage.
Oui, il y a eu une perte d'achalandage par rapport à l'année... par rapport à l'an dernier, puis par rapport à l'année précédente, cette année, là, t'as donné une idée, il y a eu 183 149 visiteurs. On va arrondir à 183 000. Et l'an dernier, il y avait 190 638 visiteurs. Donc, c'est quand même une perte là, d'au-delà de 6 000 visiteurs.
Bon, quand même.
Même 7 000, même. C'est quand même beaucoup. Parce qu'il
n'y a pas eu de tempête de neige, le temps était clément, il n'y a pas de raison.
Ben, il n'y a pas de raison.
Il y avait quelques absents, faut dire.
Il y avait des absents, mais je te dirais, c'est cyclique, hein? Parce que si on regarde aussi les ventes de voitures au Canada et au Québec en 2019, les ventes totales ont connu une baisse en 2019, en 2018. Donc, s'il y a moins de ventes, il y a peut-être moins de gens qui sont en mode achat. Donc, c'est peut-être pour ça. Parce que si on regarde, par contre, certains kiosques, on regarde juste au kiosque du guide de l'auto, c'est une année record pour la vente de livres. Donc, il y a une baisse d'achalandage, puis il y a une augmentation du nombre de ventes de livres. Donc, c'est quoi le corollaire entre les deux? Je ne pourrais pas t'expliquer.
Mais les gens prennent le temps qu'il faut pour bien étudier la chose.
Bien, il va falloir que les manufacturiers repensent la façon peut-être de présenter les voitures. Je te dirais aussi, là, si j'ai un petit conseil à donner aux organisateurs du Salon de l'Auto, fermez les portes à 9 heures. Quand je dis les portes, là, c'est pas la porte d'entrée, c'est la porte de sortie, là, pour sortir. Parce qu'il y a bien des gens qui étaient un peu désappointés parce que les gens sont peut-être rentrés dans l'édifice vers, je sais pas, moi, 19h30, 20h. Puis à 21h, on leur demandait déjà de partir.
Ouais.
Tu avais des agents de sécurité qui faisaient. Fait que j'ai entendu du monde qui n'était pas de bonne humeur, qui voulait peut-être se faire rembourser. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a donné, mais je pense que l'année prochaine, ils sont peut-être mieux de garder les portes ouvertes jusqu'à 10 heures, 22 heures. Parce que ça va faire en sorte que des gens peut-être qui ne reviendront pas l'an prochain.
Ben, c'est certain, quand tu arrives à 19h30, tu vas avoir le temps qu'il faut pour bien visiter tous les étages et voir le plus de modèles possibles.
Exactement. Puis l'année record du Salon de l'Auto, c'est en 92. À l'époque, il y avait eu 271 917 visiteurs. C'est quasiment 272 000.
C'est à l'époque où on présentait le salon au Stade olympique?
En plein ça. Ouais. En plein ça. Puis tu vois, la plus grande foule au Palais des congrès, c'est en 2005, il y a eu 220 819 visiteurs, donc 221 000. Donc, c'est pour te dire que ça, c'est un marché au niveau du salon là, qui il y a moins de monde qu'avant.
Des hauts et des bas, c'est normal.
Des hauts et des bas, puis c'est pas juste à Montréal. On pourrait dire que c'est partout sur la planète. Il y a peut-être seulement le Salon de Toronto qui augmente son assistance d'une année à l'autre, Mais Détroit est en perte de vitesse, Chicago...
Tu le disais tout à l'heure, les gens consultent beaucoup les livres puis tout ça. Vous savez, aujourd'hui, hein, quand on va avoir des renseignements, là, quand vient le temps de s'acheter une voiture, ben, sur Internet, d'abord, il y a une multitude de photos de tous les angles, des modèles qui nous intéressent. On a tous les détails techniques, il y a des vidéos. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, il y a tellement d'outils pour se renseigner que c'est peut-être moins nécessaire de se déplacer, d'aller voir ça... en chair et en os, quoi.
T'as bien raison. Puis il y a peut-être aussi des raisons de stationnement, parce que je me suis questionné. Parce que c'est sûr que se stationner aux alentours du Palais des Congrès, c'est pas évident. On conseille aux gens de prendre le métro, ou encore t'es obligé d'aller te stationner un petit peu plus loin. Puis là, ben, tu peux prendre... tu sais, Montréal, c'est une ville souterraine, hein? Fait que tu peux prendre une bonne marche à l'abri des intempéries, sous la terre. Mais c'est pas tout le monde qui connaît là ces petits raccourcis-là.
En tout cas, toi, t'as passé quelques jours là-bas. Évidemment, t'étais au kiosque du guide de l'auto, mais évidemment, t'as profité de l'occasion pour faire le tour du salon. Je te demandais tes coups de cœur du salon cette année.
Ben, d'emblée, je te dirais la Chevrolet Corvette, bien entendu, 8e génération. Il y avait, en plus du modèle coupé, on avait le modèle cabriolet, qui était particulièrement... c'est un véhicule qui est particulièrement beau, à mon avis, là, mais... c'est dur de dire qu'une Corvette, c'est laid. Mais il y a un modèle qu'on n'avait pas parlé beaucoup, qui a fait une première apparition, c'est la Ford Mustang Shelby GT500. C'est sûr que la Mustang Mach-E, elle a attiré les foules, elle a attiré aussi les commentaires, beaucoup de commentaires sur ce véhicule-là. Personnellement, c'est pas un coup de cœur. Moi, je te dirais, mon coup de cœur, si on regarde du côté de la Mustang, c'est la Mustang la plus puissante de l'histoire avec un V8 suréalimenté de 5,2 litres, 760 chevaux. La Mach-E, c'est dans mes coups de cœur, mais je te dirais, là, à la toute fin. À part ça, ben...
Dis-moi donc, là j'ouvre une parenthèse, là, je parle au gars de, comme on dit souvent, au gars de char, là, hein, t'aimes ça, toi, les autos, puis tout ça. Ouais. Là, tu me parles de la Mustang la plus puissante de l'histoire. Et à une époque où on essaie de faire la promotion des voitures électriques, puis tout ça, où l'environnement, c'est très important, dans le domaine de l'automobile, on dirait que ça a comme l'effet contraire. Hein. Je comprends là, qu'il y a davantage de véhicules électriques qui se vendent, mais on fabrique davantage également aussi des voitures de plus en plus puissantes. Ça te dérange ça ou tu trouves ça normal?
La puissance des moteurs
qu'on continue et qu'on fasse encore des moteurs de plus en plus puissants à une époque où on devrait s'attendre au contraire.
Oui, tu as bien raison, mais si on regarde la Mustang, on s'entend que c'est une surenchère par rapport à la Dodge Challenger, par rapport à la Camaro. On s'entend que les Mustang avec des gros V8 de 5,2 litres, 760 chevaux, la GT500, ça va se vendre au compte-gouttes, là.
Parce que là, on parle d'une Mustang avec, j'ai-tu bien lu, 760 chevaux vapeur?
Exactement.
Aïe, aïe.
C'est beaucoup.
Moi, j'en ai quoi dans ma voiture? 180, je pense?
À peu près. Environ. Ouais. Mais cela dit, si tu me laisses continuer, là, je vais ouvrir la porte aux voitures électriques puis hybrides rechargeables qui sont mes coups de cœur. Il y a la Porsche Taycan, qui est une voiture entièrement électrique. Moi, je te dirais, c'est sans doute la plus belle voiture électrique de l'industrie. C'est une voiture qui rivalise avec la Tesla Model S. Porsche annonce une autonomie de 450 km. Par contre, l'EPA américaine, là, c'est eux qui font les tests de consommation aux États-Unis. Ils ont revu ça à 323 km. Donc, ça sera à vérifier éventuellement. Il y a le Ford Escape 2020 qui change complètement de look. Quatre motorisations offertes, c'est-à-dire deux moteurs à essence. Mais en plus, vous avez une version hybride puis une version hybride rechargeable. Donc, tu vois, là, je suis pas juste... mes coups de cœur, c'est pas juste des gros blocs à essence, là, tu vois. Côté électrique.
Non, je te fais pas de reproche, là. Je dis simplement qu'à une époque où l'environnement, c'était important, puis tout ça. Puis on dirait que les constructeurs, ben, pour se sentir moins coupables, t'es là, ils t'offrent des Mustang avec des moteurs de 760 chevaux vapeur.
Ouais.
Puis à côté, une voiture électrique. Puis encore là, tu me parles de la Porsche Taycan. Enfin, peu importe.
C'est pas donné.
Ça coûte combien,
ça? C'est ça. Mais la Ford Escape, c'est plus abordable. Le Kia Soul aussi, le nouveau Kia Soul 2020, version électrique. On a parlé d'essai il y a pas longtemps. Mais c'était quand même une première canadienne, là, si on veut, dans un salon automobile cette année. 383 km d'autonomie, c'est quand même intéressant. La Hyundai Ioniq, c'est pas nouvelle celle-là, Jacques, Par contre, Hyundai a rafraîchi le look de cette voiture électrique-là, parce que cette voiture-là est offerte en version hybride, hybride rechargeable et entièrement électrique. Puis ce qui est intéressant, c'est que l'autonomie là, en mode électrique est passée de 200 à 274 km. Là, ça commence à être intéressant.
Déjà mieux.
Déjà mieux. Mini Cooper SE, voiture électrique aussi. C'est une voiture qui a une autonomie qui peut s'étirer jusqu'à 270 km, dépendamment là, de la façon des conditions routières.
Ouais, ouais, je te dis, comment tu fais pour étirer ça? Tu...
Ben, il faut lever le pied, puis il faut conduire de façon intelligente, de façon stratégique. Parce que c'est
pas
ça,
trop d'accélération, puis...
Ben, c'est ça, parce que quand on conduit une voiture électrique, genre, ou hybride rechargeable, quand on est en mode électrique avec une hybride rechargeable, c'est là qu'on développe une espèce... Tu sais, on tente toujours d'améliorer ses performances. C'est ça qui est bon avec ce genre de véhicule-là. Mmh. Tu sais, il y a toujours un petit stress, là, parce qu'on regarde toujours l'autonomie qui reste. Mais cela dit, on tente toujours de battre ses records précédents. Donc, ça fait en sorte qu'on consomme moins. Et je te dirais aussi, une voiture qui n'est pas négligée, c'est la Nissan Sentra, qui adopte le look des Altima et Maxima. C'est une voiture compacte. Qui étreint un nouveau 4 cylindres 2 litres de 149 chevaux qui apparemment est beaucoup plus économique là, que l'ancien moteur de 1,8 litres.
Bon. La pause s'en vient. Donc, il y avait plein de voitures à ce salon de l'auto. Et au niveau des tendances, par exemple, la couleur à la mode pour en 2020 ou pour les années subséquentes, d'après ce que tu as vu, c'est quoi la couleur à la mode?
Il y avait beaucoup de voitures blanches. Mais je vous dirais, ce qui s'en vient pour le futur, c'est le vert.
Le vert.
En différentes teintes. Ah. Et on avait connu ça, Jacques, dans les années 90. Je ne sais pas si tu te rappelles, même, on avait connu ça au niveau de la construction résidentielle. Les gens faisaient installer de la brique verte sur leur résidence, des toitures vertes. Et à un moment donné, ça a pas, la mode a passé, le bleu a remplacé ça, le blanc... Le brun, charcoal, etc. Mais là, les couleurs vertes, il fallait avoir le kiosque de Toyota. Je pense que tous les véhicules utilitaires offerts par Toyota, en tout cas, il y en avait une trolley, étaient tous offerts en vert armé.
Ah.
Donc,
C'est la tendance.
Première voiture verte, j'ai vu, moi, c'est une Porsche 911 en 1983 de couleur verte au salon de l'auto, puis on m'avait dit que c'était pour la Colombie-Britannique.
Ah.
Et finalement,
excellent.
Ça allait chez nous.
Ben, parfait. Alors voilà pour le salon de l'auto. À tout de suite.